Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Ce matin, nous allons voir trois obstacles que nous devons balayer dans nos vies chrétiennes si nous voulons recevoir quelque chose de Dieu. Et ces trois obstacles sont très courants. Dieu est un Dieu d'amour et il nous a donné Jésus pour que nous puissions être touchés dans nos vies, être transformés, être sauvés, naître de nouveau. Mais il y a une chose que Dieu veut faire, c'est continuer à nous donner. Et je vois dans la vie chrétienne de pas mal de chrétiens une certaine frustration parce qu'ils n'arrivent pas à recevoir de la part de Dieu. Et ce matin, on va voir trois obstacles qui sont très courants que la plupart des chrétiens ont déjà rencontrés. Et certains, peut-être, vous butez tout le temps devant les mêmes choses. Vous empêche de voir la bénédiction de Dieu. Regardons dans Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et Jésus continue par une promesse.
Yes, a chabandanya asezerana.
Qui dit tout ce que vous demanderez. En mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est une superbe promesse, mais devant lesquelles nous pouvons avoir différentes attitudes. On peut très bien avoir une attitude de réjouissance en se disant, voilà, c'est Dieu qui a parlé. C'est extraordinaire. Dieu nous aime d'une façon merveilleuse. Dieu nous donne une promesse ici. Une promesse. Une promesse que si nous nous adressons au Père, dans le nom de Jésus, Dieu veut et peut répondre à nos besoins, quels qu'ils soient. Ça peut être un problème spirituel au niveau donc de l'esprit humain. Ça peut être quelque chose au niveau de la personnalité. Ça peut être au niveau du corps. Ça peut être au niveau des finances. Dieu nous fait des promesses ici. Vous savez, il y a un nom de Dieu. Un nom par lequel Dieu s'est révélé à Abraham. Qui est en hébreu El Shaddai. Et nous savons que c'est le nom de notre église. Et ce nom veut dire des choses extraordinaires. El Shaddai, c'est le Dieu qui pourvoit. C'est comme une maman qui prend soin de ses enfants. Vous savez, il y a des choses en tant qu'être humain. Nous sommes tout à fait capables de les faire. Et quand nous sommes capables de faire quelque chose, nous n'avons pas besoin d'une intervention divine. Par contre, il y a des domaines dans lesquels nous avons besoin d'une intervention, parce que nous ne pouvons pas faire ces choses. Il peut y avoir des obstacles à ce que vous receviez la parole de Dieu. Le premier obstacle que nous pouvons voir, c'est le manque de connaissance. La Bible nous dit dans Osée,
aratubwira muri Oseya.
Dans le prophète Osée.
Umuvugisho n'Imana Oseya.
Chapitre 4 verset 6.
Ikigabane cyakana murongo wa gatandatu.
Si vous cherchez Osée, c'est assez simple.
Nimba muri ko murarondera Hosea hariho.
Vous avez dans l'Ancien Testament.
Nimwe isezerano rya kera.
Ézéchiel.
Hariho Ézéchiel.
Ensuite vous avez Daniel.
Hariho Danieli.
Et ensuite vous avez Osée.
Hama mucho mushikira Hosea.
C'est le Et en fait dans Osée chapitre 4 verset 6.
Muri Hosea ikigabane cyakana murongo wa gatandatu.
Le prophète reçoit cette parole.
Umuvugisho yahawe iri jambo.
Inspiré par le Saint-Esprit.
Aho metsa na mwemo yera.
Qui dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge no kutamenya.
En parallèle, nous allons lire Romains chapitre 10.
Abaromi kigabane cy'icumi.
À partir du verset 14.
Duhere ku murongo wa 14.
Là nous allons voir un principe important.
Ahanaho turarabitegeko itegeko ryo mu byo bw'impuhe mu byankenegwa.
Une loi spirituelle importante.
Itegeko ryo mu byo bw'impuhe mu byankenegwa.
Verset 14, il est dit.
Murongo wa 14 baravuga.
Comment avront-ils donc celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il y a un principe important. Un premier principe que nous allons voir ce matin. Vous ne pouvez pas profiter d'une bénédiction de Dieu, c'est-à-dire d'une chose que Dieu veut faire pour vous, si vous ne savez pas que cette chose existe. C'est un premier principe. La connaissance va vous permettre de savoir qu'une chose existe. Et c'est extrêmement important de comprendre ce premier principe. C'est le principe de la connaissance. Je vais vous montrer dans l'Écriture comment quelqu'un qui a une certaine connaissance à un certain jour de sa vie peut rentrer dans une bénédiction alors que cette chose existe déjà. Mais d'abord, il ne la connaît pas. Il y a l'exemple de cette femme dans Marc 5 qui avait une perte de sang depuis 12 ans. En fait, c'était une femme qui avait une hémorragie. Et en fait, cette femme avait dépensé tout son argent, tous ses biens, mais sa condition allait en empirant. La femme était malade et ça continuait. Elle avait dépensé tout son argent. C'était une maladie incurable pour l'époque. Et au chapitre 5 de l'évangile de Marc, nous avons son histoire. Je vais la lire en français. Verset 25, Marc 5. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Regardez le verset 27 maintenant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Cette femme avait un problème. Elle était malade. Et à son époque, les médecins n'avaient pas de cure pour cette maladie. Donc, elle allait en empirant. Et elle a appris un jour, d'après ce qu'on pourrait déduire de ce texte, les gens sont venus la voir et lui ont dit, tu sais quoi? On a vu quelqu'un qui s'appelle Jésus. Quelqu'un de particulier. Quelqu'un qui est plus qu'un homme. Et on a vu quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs fois, dans différentes villes, quand les gens s'approchaient de lui, touchaient le bord de son vêtement, il y a eu une puissance de guérison qui s'est dégagée. Comment entendu
par
Jésus? Pourtant, mais pour l'instant, cette femme était dans sa maladie, et ce que Jésus était, ne bénéficiait absolument pas du tout à cette femme. Ce qu'il avait fait dans d'autres villes, dans d'autres endroits, pour l'instant ne bénéficiait rien à cette femme. Par contre, au bout d'un moment, elle a eu connaissance de ce que Jésus était capable de faire.
Icyo Yesu ashobora gukora.
Elle a eu connaissance.
Aramenya.
D'une facette de Dieu.
Igice cyankahishurirwa igice cy'Imana.
Pour elle, son problème c'était la grande maladie.
Ingorane yari ingorane y'ingwara.
Elle avait une situation impossible.
Yarafise ingorane ikaracamwo.
Et Dieu est le Dieu des situations impossibles pour les hommes.
Imana idukura mu bintu bitabaho.
Je vous ai dit une chose.
Ndabwire ikintu kimwe.
Là où vous pouvez faire quelque chose.
Aho ushobora gukora ikintu.
Vous n'avez pas besoin d'une intervention divine.
Aho rero ntukeneye ko Imana yigaragaza.
Je sais qu'il y a des chrétiens qui disent Seigneur aide-moi à monter dans le bus hein. Fanatique, vous savez. Il y a vraiment des chrétiens, vous savez, qui sont fanatiques. Non, vous avez besoin d'une intervention divine. Là où vous avez un problème sérieux. Devant lequel l'homme ne peut rien faire. Donc c'est important de comprendre ça. Nous avons besoin de Dieu dans le domaine où, là où il peut intervenir. Et il veut toujours intervenir. Mais nous avons besoin de Dieu dans les situations impossibles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cette femme entend parler de Jésus. Elle reçoit une connaissance d'une facette de la puissance de Dieu. Et ça va déclencher chez elle quelque chose qui s'appelle la foi. Mais en dehors de cette connaissance, elle ne bénéficie en rien de ce que Dieu pouvait faire. Donc c'est important à comprendre. C'est très important à comprendre que la connaissance, le manque d'enseignement va amener des gens à ne pas pouvoir connaître certaines bénédictions. Au chapitre 19 des Actes des Apôtres, nous avons l'histoire d'un groupe de prières. Regardons ensemble Actes
19.
Nous avons l'exemple d'un groupe de prières qui était né de nouveau, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une expérience personnelle de salut avec Dieu, de transformation de vie, mais ces gens n'avaient pas de connaissance. Ils avaient la connaissance du salut, ils étaient nés de nouveau, mais ils n'avaient pas plus de connaissance. Et l'apôtre Paul rencontre ce groupe et il commence à leur poser des questions parce qu'il voit bien que c'est sûr que d'une part ils connaissent le Seigneur, ils sont nés de nouveau. Ça, c'est ce que Paul va voir. Parce que dans ce passage, Paul ne va pas leur prêcher l'évangile à nouveau. Donc c'est clair qu'ils sont déjà nés de nouveau. Par contre, ils ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont aucune connaissance du baptême du Saint-Esprit. Et tu parles en langue. Bon, qu'est-ce que Paul fait? Il leur pose d'abord des questions. Au verset 2, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu dire, regardez bien, entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il leur répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance qui disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés dans l'eau au nom de Jésus. Donc ils ont déjà né de nouveau. Ce groupe a reçu Christ il y a un certain temps. Par contre, ils sont dans la confusion au niveau doctrine. Au niveau enseignement, ils sont complètement confus. Ils ne sont même pas baptisés d'eau après leur nouvelle naissance. On pourrait faire tout un tas de commentaires sur ce passage, mais ce n'est pas l'objet de mon sermon ce matin. Ce qui va m'intéresser, c'est le verset 6. Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va les instruire sur le baptême du Saint-Esprit. Ils prennent connaissance qu'il y a cette bénédiction. Et une fois qu'ils en ont connaissance, ils entrent dans la bénédiction. C'est le problème de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas dans leur vie spirituelle. Pourtant, qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel, qui sont nés de nouveau, qui ont vécu une réelle expérience de transformation de vie, mais qui ne grandissent pas. parce qu'il manque de connaissances. Connaître la parole vous permettra de savoir qu'est-ce qui vous appartient en
Christ.
Nous avons un héritage en
Christ.
Le jour où tu es né de nouveau, Dieu a transféré un héritage spirituel. De quoi bénéficies-tu? Quel est l'impact de cet héritage spirituel dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis? Vous savez, il y a certains chrétiens, certaines personnes qu'on connaît, et leurs amis font les commentaires suivants. Ils disent, oh, celui-ci, avant d'être sauvé, il paraissait plus heureux que maintenant. Vous avez jamais entendu ce genre de commentaires? Parfois sur certaines personnes, oui. Ça prouve qu'il y a un manque d'épanouissement. Mes amis, si vous voulez être heureux dans cette vie, il va falloir être épanoui. Et pour vous épanouir, il va falloir expérimenter Dieu. Il va falloir d'abord avoir la connaissance de sa parole et expérimenter sa présence. C'est là où vous serez épanoui. C'est là où on verra la différence. Comme le dit Malachi, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Mais la connaissance de la parole, le désir de connaître la parole, l'attachement à la parole, la pratique de la parole, c'est fondamental pour un chrétien. Moi je suis étonné parfois. Je le dis souvent parce que ça m'étonnera toujours. Il y a des gens à qui on prescrit ça, qui reçoivent le Seigneur, qui sont vraiment nés de nouveau, mais qui ont un intérêt quasiment nul pour la parole de Dieu.
Et
moi ça me choque. Franchement, ça me choque. Je suis choqué de telles attitudes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un commence à connaître Dieu, qu'il est né de nouveau, qu'il est sûr que quand il meurt, il va au ciel, et alors, à ce moment-là, il devrait chercher à connaître mieux Dieu ici sur cette terre en même temps. Puisque nous savons que l'éternité, nous la passerons avec Dieu. Mais tant que nous sommes sur cette terre, Dieu veut toucher nos vies encore plus. Dieu veut nous faire aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions profiter de ses bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que nous soyons heureux. Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants dans des problèmes alors qu'il a la solution, qu'il a donné la solution dans sa parole. Vraiment, ça ne lui plaît pas. Tu
veux
voir des chrétiens mourir prématurément? Non. Dieu nous promet une longue vie sur la terre. Maintenant, si tu veux mourir plus tôt et voir le Seigneur plus tôt, c'est ton problème. Mais Dieu nous promet une longue vie sur la terre. Dieu nous promet la bonne santé divine. Dieu nous promet la prospérité. Dieu nous promet l'expérimentation de sa présence. Dieu nous promet le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous promet toutes sortes de bénédictions que nous pouvons et que nous devons expérimenter. Maintenant, il y a des obstacles. Ce premier obstacle, c'est donc le manque de connaissance. C'est pour ça que nous devons désirer connaître la parole, étudier la parole, pratiquer la parole, savoir ce qui nous appartient et marcher à la gloire de Dieu pour que Dieu puisse toucher nos vies parce qu'il nous aime. La deuxième chose, deuxième principe, vous ne pourrez rien recevoir de Dieu avec une mentalité religieuse. Et dans la religion, il y a trois aspects. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, la religion, j'ai horreur de ça. La religion, ça pue. Ça fait du mal à l'homme. Et ça empêche l'homme de voir la gloire de Dieu. De voir la bénédiction de Dieu. D'expérimenter ce que Dieu veut pour nous. La religion est un obstacle terrible pour que les êtres humains puissent expérimenter une relation avec Dieu et puissent développer leur relation avec Dieu. Et c'est un obstacle qu'on voit souvent. Quand je parle de l'esprit religieux, Je parle des mentalités religieuses. Et c'est triste de voir une chose. Il y a des gens qui reçoivent
Christ
comme leur sauveur personnel. Dieu leur ouvre une porte extraordinaire de cette relation avec lui. D'expérimenter les choses avec lui. Et les choses que ces gens-là font, ils se remettent dans des fardeaux de religion. Je vous rappelle une chose. La nouvelle alliance n'est pas basée sur une religion. Nous entendons parler des religions chrétiennes. Et je suis désolé. Il n'y a pas de religion chrétienne. Il y a une relation que Christ est venu apporter à l'homme. Et c'est ça la base fondamentale d'être un vrai chrétien. Le reste n'est que religion. Et quelqu'un qui est dans la religion, il ne peut pas connaître Dieu personnellement. Il ne peut pas connaître Dieu personnellement. On ne peut pas connaître Dieu en pratiquant une religion. On peut connaître Dieu quand on l'a rencontré personnellement. Quand on a fait une expérience personnelle avec lui. Une expérience de transformation de
l'Église.
C'est comme ça qu'on connaît Dieu au travers du sacrifice de Christ. Au travers du sang de Jésus. Alors les premières choses qu'on voit quand des chrétiens ont reçu Jésus donc comme sauveur personnel, leur vie est changée, Dieu commence à travailler, mais malheureusement souvent les gens ont le cerveau lavé par la religion. Et là il y a des gens qui ne changent pas, qui ne veulent pas changer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à mériter les bénédictions de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, que tu lui dis Père, au nom de Jésus, j'ai besoin de ça ou Père, je viens pour te louer, t'adorer. Quoi que ce soit que vous fassiez, quand vous vous approchez de Dieu, quand vous parlez à Dieu, quand vous voulez développer cette relation, vous avez une chose à faire, c'est à arracher la religion. La religion a trois aspects. Le premier aspect, c'est de vouloir mériter quelque chose. Mais ceux qui prient de cette façon-là, en montrant à Dieu les bonnes œuvres qu'ils font, pour essayer de mériter une bénédiction, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Mais parce qu'il y a un mot dans le Nouveau Testament qui est un puissant mot, qui est le mot grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est une faveur qui est immérité, que tu ne pourras jamais gagner. Tu ne pourras jamais gagner la moindre bénédiction de la part de Dieu. Parce que Dieu te donne, parce qu'il t'aime, point très, comme vous dites ici. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Tu ne peux pas mériter ta bénédiction. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire que nous ne verrons pas en détail, mais je vais vous la résumer. Quand Adam et Ève ont eu des enfants, ils ont eu deux fils au départ, Caïn et Abel. Vous trouvez ça dans le chapitre 4 de la Genèse. Abel avait compris une chose.
Abel
comprenait qu'il ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans passer par un sacrifice de sang. Parce que Dieu avait institué l'alliance avec l'homme. À partir du moment où l'homme veut s'approcher de Dieu, forcément, il doit y avoir une vie qui doit être donnée. Dans l'Ancien Testament, nous savons que c'était les animaux qui payaient. Dieu ordonnait, quand un être humain voulait s'approcher de lui, qu'un animal soit pris, qu'il soit tué, que le sang coule, et seulement sur cette base, un être humain pouvait s'approcher de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous sommes sur un sacrifice de sang, mais Dieu soit béni, nous ne venons pas à l'église avec nos brebis, nos oiseaux, etc., pour les égorger ici même. Mais nous sommes sur une base de sacrifice de sang. Par le sacrifice des sacrifices. Christ qui s'est donné en sacrifice. Et qui a versé son sang. À chaque fois que je m'approche de Dieu, que tu t'approches de Dieu, si tu es né de nouveau, la base est là. Le sacrifice de sang. Jésus qui s'est donné comme une brebis. Jésus qui s'est donné comme un sacrifice. Et qu'est-ce que j'ai mérité pour ça?
Rien.
Rien. Je n'ai qu'à accepter.
Je
dis merci Seigneur. Parce que j'y peux rien. Et nous sommes sur cette base de la grâce. Abel avait compris ça. Abel s'approche de Dieu. Il amène son animal. Et il veut s'approcher de Dieu. Et Dieu est d'accord. Parce que Dieu avait enseigné Adam et Ève. Parce que, en fait, Adam et Ève avaient chuté. Et quand ils ont chuté, ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu. Spirituellement. La relation avait été coupée. Et Dieu a dû instituer un système pour que l'homme s'approche de Dieu. Mais Caïn, il était religieux. Caïn, lui, il est venu avec ce qu'il avait produit. Et il a dit, tu vois, Dieu, c'est dur tout ça. Je t'offre le fruit de mon travail. Et Dieu lui a dit, je ne peux pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter tes
efforts. Tout
quand tu t'approches de Dieu, tu dis, tu vois Dieu, j'ai fait ceci, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, j'ai prié, j'ai fait mon jeûne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors, je te demande ça. Tu as tout faux. Tu as tout faux. Parce que là, tu es sur une base religieuse. Et sur une base religieuse, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. Tu ne pourras rien recevoir de Dieu. Un autre aspect de la religion, c'est se voiler la face. Être devant la vérité et refuser la vérité. Et là, il y a des gens qui sont comme ça aussi. Il y a beaucoup d'inconvertis qui refusent la vérité. On leur annonce l'évangile et ils disent non, 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 non. Moi, je ne veux pas de ça. Ok, comme tu veux. Non, 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 je ne veux pas de ça. Ils voient des gens qui sont changés, transformés, qui d'un seul coup, vraiment, ont une vie changée. Parce qu'il faut une rencontre personnelle avec Jésus. Ils disent, non, 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 c'est des histoires, ça.
Oh,
je refuse ça. Je ne veux pas ça. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. Malheureusement, dans les églises, il y a beaucoup de descendants des pharisiens. Ils ne sont pas morts. Les pharisiens, c'était les gens religieux de l'époque de Jésus. Ils s'étaient mis dans une secte à croire leur propre truc. Ils avaient pris la loi de Moïse. Ils avaient endurci les choses. Et ils disaient, soit vous êtes pharisien, soit vous êtes dans l'erreur. Et c'est ce que ces gens-là faisaient. Et ils mettaient des joues sur le peuple de Dieu. Et alors ils étaient là et ils suivaient Jésus. Non pas pour voir si vraiment il y avait la vérité là. Mais ils suivaient Jésus pour faire quoi? Ils suivaient Jésus simplement pour chercher un prétexte de l'accuser et de s'en débarrasser. Donc chapitre 6 de Luc, nous avons une histoire comme ça. Il y en a bien d'autres. Jésus rentre dans une synagogue. Donc c'était là où les juifs se rassemblaient pour écouter la loi. Et pour prier. Et il y avait un homme qui avait un bras paralysé. Et Jésus est là. Et il va recevoir une parole de guérison pour cet homme. Mais il y avait donc aussi des scribes et des pharisiens qui cherchaient un moyen d'accuser Jésus. Et je vais raccourcir l'histoire parce qu'on n'a pas le temps de rentrer en détail. Mais Jésus, dans cette histoire, va proclamer une parole sur cet homme qui est paralysé.
mugabo yaranyunyuse
ukuboko instantanément
muri uyo mwanya nyene
devant leurs yeux
imbere y'amaso yabo
cet homme va guérir
uyo muntu arakira
et qu'est-ce qu'ils vont faire
bace bakora iki
ils vont croire en Jésus
bace bitera Yesu
ah oh ya regardons ensemble
turabire hamwe
verset 10
murongo w'icumi
alors promenant ses regards sur eux tous il dit à l'homme Jésus dit à l'homme étends ta main Il le fit, et sa main devient saine. Il fut guéri. Donc. Rempli de fureur, les pharisiens et les scribes discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Ces pharisiens, ils ont vu des dizaines, voire des centaines de guérisons et de miracles. Devant leurs yeux. Mais ils refusaient. Ils refusaient délibérément de croire. L'esprit religieux refuse de croire. Et il y a des gens, vous savez, on peut même leur montrer l'écriture. La seule chose qu'ils font, c'est comme ça. Je refuse de voir. Ça, ce sont les arrière petits-fils des pharisiens. Il y en a beaucoup encore qui refusent totalement de voir les choses, de voir la vérité. Et mes amis, souvent il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il y a des vérités de la parole, mais il se trouve des excuses religieuses. Non.
Je
suis pas d'accord. Tant pis pour toi.
Nakazi kawi.
T'es pas d'accord.
Nakazi yemera.
Tant pis pour toi.
Nakazi kawi.
Ça t'empêchera de recevoir la bénédiction.
Bizokubuza kwakira umugisha.
Tu remets en question la parole.
Ukekeranya kwijambo.
Ça c'est ton problème.
Iyo ningorane yawe.
Mais va pas dire Dieu bénis-moi. Seigneur, je ne veux rien voir.
Ariko nugenda uvuga utimana meza gira. Ariko nacho ndaba.
C'est grave comment certains chrétiens peuvent se comporter.
Biraba batigana ba Kristo bamwe bifata uko.
Ils prient la prière Seigneur bénis-moi.
Basenga batimana si heza gira.
Qui n'a d'ailleurs aucun sens. Parce que quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est là où tu vois la bénédiction de Dieu. Et à côté de ça, il refuse de voir la vérité. Il refuse de voir les choses de la parole de Dieu. Il y a quand même un non-sens ici. Donc ça, c'est la deuxième forme d'esprit religieux. La troisième forme de l'esprit religieux, vous le trouverez dans les gens qui prient et qui disent à Dieu comment ils doivent faire dans leur situation. Il y a des chrétiens qui sont très forts. Quand Alors Seigneur, je te demande ça, mais je te prie pour que tu interviennes au travers d'un tel, que tu fasses ceci, et comme ça, et à telle heure, et dans tel endroit. Attends, c'est qui Dieu là? C'est toi ou c'est lui finalement?
Et
il y a des gens qui ont des préjugés sur la façon dont Dieu intervient. Et là, mes amis, c'est pareil. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, c'est pas à Dieu de se mettre sur votre longueur d'onde. C'est à vous de vous mettre sur la bonne radio. C'est à nous de changer. Si nous pensons que Dieu intervient d'une certaine façon et que la parole de Dieu dit le contraire, tu peux prier autant de fois que tu veux. Dieu te dira, je suis l'Éternel, je ne change pas, c'est à toi de changer, c'est à toi de faire ton choix, c'est à toi de choisir, de changer tes façons de penser, de changer tes mentalités religieuses, pour voir Dieu intervenir dans ta vie, parce que Dieu n'interviendra pas dans ta vie, à ta sauce. À la façon dont tu vois les choses. Et dans l'Écriture, il y a deux exemples. Il y a cette Samaritaine que Jésus rencontre. Dans Jean chapitre
4.
Dans Jean chapitre
4.
Jésus rencontre cette Samaritaine. Et au verset 20. Nous voyons qu'elle a des préjugés. Dans Jean chapitre 4, verset 20, cette femme a des idées sur Dieu qui sont fausses. Et Jésus va la corriger. Dieu soit béni. Cette femme était enseignable. Et elle s'est corrigée. Et elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, vous les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront pas sur cette montagne, mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons. Verset 23, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adore en esprit, en vérité. Cette femme avait des idées préconçues sur l'adoration. Nous nous disons que c'est comme ça. Vous vous dites que c'est comme ça,
les juifs.
Et je leur dis non. Vous avez tous tout faux. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et cette femme a dû se corriger. Elle a cru en Jésus après. Mais on voit qu'elle était remplie déjà de mentalité religieuse. Jésus l'a corrigée, l'a enseignée correctement. Et après, elle a accepté. Il y a une autre histoire d'un général syrien que je pense nous connaissons bien. C'est Naaman. Naaman était lépreux. Vous aurez son histoire dans 2 Rois chapitre 5. Naaman était lépreux.
Et
c'était une maladie incurable à l'époque. Cet homme était syrien. Un étranger par rapport à
Israël.
Et en fait, cet homme apprend qu'il y a un prophète en Israël. Et cet homme arrive en Israël pour voir le prophète. Et lui, il avait des idées très préconçues sur la façon dont il allait être guéri. Il était habitué à voir les guérisseurs et les sorciers avec tout un tas de bidules et de trucs là qu'ils font. Mais Dieu n'agit pas de cette façon-là. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et alors, cet homme s'approche de la maison du prophète. Et le prophète envoie son serviteur pour dire à cet homme,
«
Oh, va te tremper 7 fois dans la rivière du Jourdain et tu seras pur. » Et cet homme se met en colère.
Il
dit, « Quoi ? Moi, aller me tremper dans une rivière qui est sale ? Mais dans mon pays, en Syrie, il y a des belles rivières. Pourquoi ne pas aller me tremper dans une belle rivière en Syrie ? Et avoir le résultat. Moi, je pensais que quand j'allais arriver chez le prophète, il allait dérouler le tapis rouge, il allait me faire des courbettes et me secouer devant moi et faire comme ci et comme ça, dire quelques formules magiques. Et puis, j'allais être guéri. Moi, je pensais. Oui, il avait tout faux. Cet homme a failli passer à côté de son
miracle.
Il a failli passer à côté de son miracle. Il était à 2 doigts de louper son miracle. Mais vous lirez cette histoire à la maison. Il avait un serviteur qui lui était éveillé. Et en fait, il lui a parlé. Il lui a dit, mais si le prophète avait dit de faire quelque chose de difficile, pour être guéri, pour te débarrasser de ce truc qui empoisonne ta vie, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Oui, bien sûr. Alors il te demande quelque chose de facile, fais-le. Et Dieu soit béni. Cet homme vraiment s'est repenti de sa mauvaise
décision
et a fait la chose que Dieu voulait, la façon dont Dieu voulait
opérer.
Vous ne pourrez pas voir Dieu intervenir avec vos propres idées sur la façon dont Dieu intervient. Ça sera un obstacle. Vous ne recevrez rien. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça qui prient par rapport à des choses et ils ont tellement d'idées préconçues. Dieu veut intervenir de cette façon-là dans leur vie, mais pas moyen. Ils sont fixés sur une façon où Dieu veut, où ils pensent que Dieu veut intervenir. Et vous les voyez jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, Et il se fane comme une belle fleur qui commence à se faner. Parce qu'ils ont prié. Mais ils veulent absolument que Dieu agisse de cette façon. Et Dieu ne peut pas intervenir. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'il ne peut pas intervenir. Dieu est souverain. Dieu est le créateur de l'univers. Il sait comment les choses doivent être faites. Et le reste, nous avons simplement à lui dire, Seigneur, la façon dont tu fais, c'est ton problème. Moi, je te remercie. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Que tu interviennes de cette façon-là, de cette façon-là, L'important, c'est quoi? Le résultat. Si vous cherchiez à être guéri par Dieu, que vous voulez toucher par la puissance de guérison de Dieu, c'est pas à vous de dire comment et par qui Dieu peut intervenir et doit intervenir. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens courir à droite à gauche, chercher la prière de telle ou telle personne, et la plupart passent à côté de leur bénédiction. Parce que Dieu est souverain. Il intervient comme il a prévu. L'important, c'est que tu te soumettes à ça. Et de ne pas vouloir voir Dieu faire la chose que toi, tu penses qu'il doit faire et comment il doit la faire.
Tu
as une promesse. Tu veux voir le résultat. Le moyen par lequel Dieu va intervenir n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Sinon, tu bloqueras la puissance de Dieu en ta faveur. Troisième obstacle. Dieu n'interviendra jamais s'il n'y a pas de foi. Dieu ne peut pas intervenir dans l'incrédulité. C'est-à-dire dans l'absence de foi. Étudions ensemble un passage. Marc chapitre 5, versets 4 à 6. Jésus a commencé son ministère. Et il a un succès très particulier dans la ville de Capernaum. Et autour de Capernaum. Il y a vraiment la gloire de Dieu qui se
manifeste.
Si vous étudiez bien l'Écriture, vous verrez qu'au début des évangiles, Jésus va aller un certain nombre de fois à Capernaum.
Et
vraiment la puissance de Dieu va se manifester d'une façon extraordinaire. De voir des milliers de guérisons. Il va y avoir des grandes foules autour de Jésus. Plein de gens qui écoutent le Seigneur. Qui ont soif de Dieu. Ce Jésus. Dieu le Fils incarné. Qui vient. Qui a une onction extraordinaire. Les gens le touchent. La puissance de guérison. Plein de gens sont guéris. Délivrés des démons. Il revient. Là. Où il a grandi.
À Nazareth.
Chapitre 6 de l'évangile de Marc va nous montrer qu'est-ce qu'il va se passer avec des gens qui ont un cœur dur. Ces gens-là avaient vu Jésus grandir. Pendant 30 ans, le Seigneur est resté là. Il a grandi. Et en fait, dans Marc 6, Jésus revient dans sa patrie. Ils ont entendu tout son village. Ils ont entendu que Jésus faisait des choses extraordinaires. Et ils sont venus voir. Les curieux, vous savez. Vous savez que dans la curiosité, il n'y a pas de foi. Il y a beaucoup de gens qui traînent les églises pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 4, et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Regardez le verset 5 maintenant. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est de guérir quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur incrédulité. Remarquez bien qu'au verset 5, il est dit la chose suivante. Il est dit Jésus ne put, du verbe pouvoir. Il n'est pas dit Jésus ne voulut pas. Il est dit Jésus n'a pas pu. Du verbe pouvoir. Pourtant, c'est le même Jésus. Avec la même onction. Qui avait fait de grands miracles. Un peu plus loin. Là, il vient. La même personne. La même onction. Mais la capacité est limitée. la manifestation
illimitée.
La manifestation de la
puissance de Dieu.
Pourquoi? Sachez que Dieu a la capacité de tout faire dans nos vies. Mais est-ce qu'il va pouvoir manifester sa puissance? Il y a une différence énorme entre la puissance potentielle de Dieu, c'est-à-dire la réserve de puissance que Dieu a, qui est absolument infini, où Dieu est capable de tout faire, il peut tout faire dans ta vie, si ce matin t'es dans tes péchés, il peut te sauver instantanément, si t'es malade, il peut te guérir instantanément, si tu as un problème, quel qu'il soit, il peut le résoudre instantanément. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que la manifestation de sa puissance va dépendre de quoi? Ta foi. C'est ta foi. Ta foi qui va permettre de laisser circuler la puissance de Dieu dans ta vie.
Ou
c'est ton absence de foi qui bloque. Alors que la puissance est là. C'est comme l'électricité. Vous pouvez très bien avoir un compteur électrique chez vous. Tous les fils électriques. Une installation impeccable. Parfaitement relié à la régie des eaux. Mais si vous êtes là, assis dans votre salon, il fait nuit, vous avez quelqu'un qui vient, et vous êtes dans le noir, aucune ampoule est allumée chez vous, votre visiteur va dire, ah, tu n'as pas payé la régie des eaux. Et tu vas dire, non, 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 tout marche bien chez moi. Et vous allez dire, mais attends, pourquoi? Tu restes dans le noir comme ça? Pourquoi est-ce que tu restes dans le noir? Où t'es là? La puissance est potentielle, mais tu ne t'en sers pas. Et vous voyez votre visiteur qui vient, il appuie sur l'interrupteur, et il y a la lumière qui est là. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils restent dans le noir, c'est-à-dire ils empêchent la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'activent pas leur foi, parce qu'ils sont dans l'incrédulité. C'est un obstacle, mes amis. Mais souvent, les gens prient de la façon suivante. Oh Dieu fait ça, oh Dieu fait ça, vas-y Seigneur fais-le.
Oh mana cora.
Mais ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Jésus était là. La puissance potentielle de Dieu était là. Est-ce qu'elle s'est manifestée? Très peu. Pourquoi? Mais Jésus le dit. C'est pas moi qui l'invente. Il s'étonna de quoi? Leur incrédulité. Il refusait de croire. Donc Jésus n'a pas pu manifester la puissance de Dieu. Pourtant elle était là potentiellement. Mais la manifestation n'a pas pu se faire. Qui était le fautif? Jésus?
Yes.
Non.
Oh, yeah.
Il était là. Il avait déjà fait plein de choses avant. La puissance passait, circulait. Mais il arrive dans un endroit, dans la ville où il a grandi, où les gens bloquent cette puissance. À cause de quoi? La Bible nous le dit. L'incrédulité. Dans l'incrédulité, vous ne pourrez jamais rien recevoir de Dieu. Si vous essayez un petit coup Dieu, si vous essayez la prière, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Ça ne marchera pas. Essayer la prière ne marche pas. Parce que si tu essayes de voir si Dieu éventuellement va intervenir dans ta situation, ça veut dire que tu es dans l'incrédulité. Et tu ne verras rien. Dieu ne peut pas intervenir s'il n'y a pas de foi. Or, sans la foi, nous dit la parole de Dieu, dans Hébreux
11:6,
il est impossible de lui plaire. Il est impossible de voir Dieu agir. Sans la foi, il est impossible de voir Dieu agir. Quelqu'un disait la chose suivante. La foi attire la puissance de Dieu comme un aimant attire des pièces de métal. C'est la même chose. Vous rapprochez une pièce métallique d'un aimant, vous avez cette force invisible, cette puissance invisible qui est là et qui d'un seul coup va attirer ce morceau de métal. C'est la même chose pour la foi. Si vous étudiez les évangiles, vous verrez que Jésus.
Cherchez la foi chez
Jésus.
Au chapitre 2 de Marc, Jésus avait un immense succès dans son ministère.
Il était
dans une maison. Tout autour de cette maison, il y avait plein de gens
qui étaient
venus pour l'écouter.
Mais il
y avait quelqu'un qui était
paralysé.
Et cet homme qui était paralysé,
il
avait des amis, quatre
amis
qui ont voulu l'amener à Jésus.
Mais
il y avait une telle foule qui était là, qui stressait, qu'il n'était pas possible de l'amener à Jésus. Donc ces gens, c'est dans le chapitre 2 de Marc, ces gens, ils vont avoir une idée. Ils vont dire, on va monter sur le toit de la maison, on va ouvrir le toit
et
on va faire descendre le malade. Si vous étudiez ce passage, vous verrez que Jésus dit la chose suivante. Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. La foi attire la puissance de Dieu. Sans la foi, on bloque la puissance de Dieu. On bloque la puissance de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'a pas la foi pour le salut. Et cette foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Cette foi, ce n'est pas Dieu qui la donne. Elle est produite dans ton esprit, dans ton cœur. Si tu écoutes la parole et si tu ouvres ton cœur, à ce moment-là, la puissance de la parole de Dieu produit la foi, et c'est là où tu peux entrer dans ton
sein.
C'est là où tu cries à Dieu et tu demandes à Dieu de te sauver. Et il vient te toucher et il vient changer ta vie. Il y a un autre passage dans Acte 14 que nous allons lire et nous clôturerons par ce passage. Dans Acte
14,
c'est le même principe.
Versets 8
et
9.
C'est Paul qui est à Lystre, dans une ville de
Lystre.
Et il est dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher.
Irusitira hari umugabo yararemaye ibirenge uhereye aho yakaviriye mu nda ya nyina ntaho yari yarigeze gutambuka uwo yumva Pawulo avuga nawe amuhanze amaso abona ko afise ukwizera ko gukizwa cyangwa kugukira avuga n'ijwi rirenga ati hagarara n'ibirenge byawe weme arabaduka aratambuka amen.
Au verset 9, il est bien dit voyant qu'il avait la foi.
Umurongo w'icyenda bavuga Pawulo abonye ko afite ukwizera.
Percevant qu'il avait la foi.
Yumvise abonye ko hari ukwizera.
Vous savez, la foi c'est perceptible chez les gens.
Murazi ukwizera burya kurumvikana ku bantu.
Quand des gens sont dans la foi,
mugi abantu bari mu kwizera,
vous sentez quelque chose.
Urumva yuko hari ikintu.
Et quand vous avez des gens
mugi hari abantu
qui sont particulièrement loin de Dieu,
basize n'Imana mu buryo bw'ubushobozi,
et Dieu suscite en ces jours,
depuis
l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes qui ont une onction spéciale, un revêtement spécial de la puissance de Dieu pour prier pour les malades. Et vous avez certainement entendu parler d'un serviteur de Dieu qui s'appelle
Benihin.
Et Benihin raconte dans un certain nombre de ses témoignages comment parfois dans ses réunions de guérison, où bien sûr il prêche l'Évangile à la fin, et où il y a des milliers de gens qui sont guéris, comment parfois dans la foule il pointe certaines personnes du doigt, et d'un seul coup c'est comme si il voyait que ces personnes.
Il ressent
une certaine attraction spirituelle. Et c'est là où souvent il donne une parole et une personne va être instantanément guérie. Parce que la foi est perceptible. Et vous voyez quand les gens ont la foi. Vous ressentez ces choses. Et à ce moment-là, ça attire la puissance de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. Paul était là. Il parlait. Il y avait certainement d'autres personnes autour de lui qui écoutaient. Il
savait
que cet homme, il avait la foi. Il
avait
la foi pour recevoir son miracle. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? À ce moment-là, le Saint-Esprit commence à bouger.
Agir.
Parce que la foi attire la puissance de Dieu. La foi attire la puissance de Dieu. Et à ce moment-là, Paul va donner cette parole. Et cet homme va être instantanément guéri. voyez l'incrédulité bloque complètement la bénédiction de Dieu. Vous ne pourrez rien recevoir. Rien recevoir. Rien recevoir. Si vous êtes dans l'incrédulité. Si vous essayez la prière, ça ne marchera pas. Parce qu'on n'essaye pas la prière. On n'essaye pas la prière. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils veulent prier. Et après, essayer de croire.
Mais
ça ne fonctionne pas comme ça. D'abord, je crois. Parce que j'écoute la parole. Et ça suscite la foi si mon cœur est ouvert. Si mon esprit, mon cœur est ouvert. Alors, cela va produire quelque chose. De surnaturel qui s'appelle la foi. Et à ce moment-là, là, quand je vais me mettre à prier, la puissance de Dieu va
commencer.
Donc ce matin, vous avez entendu trois obstacles qui vous empêcheront de recevoir de Dieu. Et si vous ne les balayez pas, eh bien, vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Ce premier obstacle, c'est le manque de connaissance. Le deuxième obstacle, c'est l'esprit religieux. Le troisième obstacle, c'est l'incrédulité. Et avec ces trois obstacles, vous ne pourrez jamais recevoir de Dieu. Ça vous empêchera de recevoir de Dieu.